Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, arène de la propagande nazie, au point levé, ganté de noir des Américains Tommy Smith et John Carlos aux Jeux de Mexico en 1968, du rallye Dakar que s'est offert l'Arabie Saoudite en 2020 à la diplomatie des stades de la Chine en Afrique en passant par la prochaine Coupe du Monde de football attribuée au Qatar. Pourquoi le sport est-il devenu un enjeu de géopolitique? Comment les États s'en servent pour exercer leur soft power, leur pouvoir d'influence? Qui sont les champions de la diplomatie sportive? Alors que le rideau est tombé ce dimanche sur les Jeux de Tokyo, que reste-t-il de l'idéal olympique, des Jeux apolitiques que souhaitait le baron Pierre de Coubertin? On en débat avec nos trois invités. Carole Gomez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche en géopolitique du sport à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Kevin Vessière, bonjour.
Bonjour.
Vous avez créé en 2019 le Football Club Geopolitics, un site et un compte Twitter qui totalise aujourd'hui près de 40 000 abonnés. Et vous êtes l'auteur du livre du même nom, Football Club Geopolitics, 22 histoires insolites pour comprendre le monde, paru aux éditions Max Milo. Pascal Boniface, bonjour. Vous êtes directeur de l'IRIS, passionné comme chacun sait de football, et vous avez signé Géopolitique du sport en 2014, édition mise à jour publiée chez Echo. Pascal Boniface, ces Jeux de Tokyo auraient dû avoir lieu en 2020. À cause de la pandémie, ils ont été reportés à cette année. Ils ne vous ont pas paru un peu tristounets, ces JO en mode Covid, sans public, sans véritable ferveur populaire?
Oui, le verre à moitié vide, c'est bien sûr qu'il n'y a pas ce public et que surtout les sportifs n'étaient pas accompagnés de leurs proches. C'est quand même la consécration pour eux de participer aux Jeux Olympiques. Ils ont été sans leurs proches et sans public et donc les stades n'ont pas vibré comme ils doivent vibrer d'habitude et comme cela qu'on les aime. Le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'ils ont eu lieu et que finalement les Jeux ont été plus forts que le Covid et que s'ils ont été retardés, ils n'ont pas été annulés. Il y a bien une Olympiade qui a eu lieu et donc pour le moment, seules les deux guerres mondiales ont empêché les Jeux Olympiques de se tenir. Le Covid, qui a bloqué le monde entier, n'a fait que les reporter d'une année.
Kevin Vessière, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, est-ce que la magie des Jeux a tout de même opéré selon vous?
Oui, je pense tout de même qu'elle a opéré, puisqu'on a quand même eu la cérémonie d'ouverture avec les différentes délégations qui pouvaient s'exprimer en montrant leurs drapeaux et en montrant leurs athlètes. Après, on a eu des bons moments de sport. Après, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu le public, mais je pense que le plus important, c'était que l'Olympiade se déroule pour montrer que le cours de la vie pouvait continuer. Et comme le rappelait Pascal Boniface, il y avait que la guerre, pour l'instant, qui avait interrompu les Jeux Olympiques. Et là, c'est vrai que c'était important pour que ces Olympiades puissent se dérouler. Et puis aussi pour le Japon, qui avait beaucoup misé sur ces Jeux Olympiques.
En même temps, Carole Gomez, une grande partie de l'opinion publique au Japon était hostile à l'organisation de ces Jeux en période de coronavirus. Pourquoi le gouvernement japonais a-t-il maintenu l'organisation des JO?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, un certain nombre de sondages ont été formulés et ont été proposés à la population. Et la population s'est prononcée majoritairement contre la tenue de cet événement sportif. Mais en réalité, on se rend compte que quand vous faites des sondages juste avant des grands événements sportifs, la majorité de la population n'est pas forcément en faveur de ça, donc il n'y a là rien d'étonnant à voir ce résultat-là. Et puis, comme le rappelait Kevin Vessière, c'était aussi un vrai enjeu de la part du Japon de maintenir ces Jeux, puisqu'ils étaient présentés depuis la campagne de candidature comme les Jeux de la Renaissance. En 2013, la campagne avait été très dure contre Istanbul et Madrid, et justement, le Japon avait insisté sur l'importance d'accueillir ces Jeux dans un contexte post-Fukushima, mais l'idée était aussi de se présenter comme les Jeux qui viendraient clôturer le coronavirus, et à plusieurs reprises, le comité d'organisation a insisté sur l'importance pour à la fois le Japon mais également le monde de un peu célébrer cette fin du coronavirus et célébrer le retour à l'humanité. Petit élément non négligeable, il faut aussi se rappeler que les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques se tiendront à Pékin, les Jeux d'hiver.
Et il y a toujours la rivalité entre la Chine et le Japon.
Et donc le Japon ne voulait logiquement pas laisser cette primeur à la Chine.
Pascal Boniface, est-ce que ces Jeux de Tokyo resteront quand même comme une édition un peu plus apolitique que les précédentes?
Oh non, il y a eu quand même plusieurs facteurs politiques, notamment le fait que pour la deuxième fois, il y a une équipe de réfugiés Et donc, par rapport au CIO qui est toujours accusé d'être réactionnaire, de ne pas être sensible aux droits humains, aux droits de l'homme, c'est quand même quelque chose d'important. La charte d'ailleurs de l'expression, l'interdiction d'expression politique des sportifs a été adoucie pour rendre l'expression des sportifs possible, pas sur le podium, pas pendant la cérémonie d'ouverture, mais au moins on peut le faire. Et puis quand même, et là c'est vraiment, je crois, capital, c'est que le CIO a protégé cet athlète biélorusse qui aurait voulu, par le pouvoir biélorusse, voulait la renvoyer manu militari, c'est le cas de le dire, dans son pays où on peut penser que un sort extrêmement néfaste lui aurait été réservé. Et si cet athlète a pu obtenir l'asile politique en Pologne et fuir la dictature biélorusse, c'est bien parce qu'elle a été protégée par le CIO.
On va donner son nom, hein. C'est la sprinteuse Kristina Tsimanouskaya qui avait critiqué sa fédération, un comportement jugé antipatriotique par le régime Loukachenko qui voulait donc la faire revenir de force.
Voilà, et là il y a à la fois un retour aux périodes de la guerre froide, puisqu'on sait très bien que pendant la guerre froide, les athlètes et sportifs des pays communistes étaient étroitement surveillés pour qu'ils ne fuient pas l'étranger, qu'ils ne choisissent pas la liberté. D'ailleurs, lors des premiers JO où l'Union soviétique a participé en 1952 à Helsinki, il y avait un village spécial pour les athlètes soviétiques, pour qu'ils ne soient pas mélangés aux autres. Et donc là, on voit bien que le pouvoir biélorusse est resté à cette époque, je dirais, stalinienne et brejnevienne, mais que le CIO a fait son travail de protection de cette sportive, et que c'est grâce à l'action publique du CIO qu'elle a pu échapper à un retour forcé dans sa patrie.
Et la jeune femme s'est donc vue octroyer un visa humanitaire par la Pologne et elle a gagné Varsovie via Vienne. Pascal Boniface, Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux Olympiques modernes à la fin du 19e siècle, voulait une séparation totale entre sport et politique. Et en même temps, il souhaitait que les Jeux aident à pacifier les relations internationales, à promouvoir la paix. Est-ce que ce n'était pas un peu contradictoire, ces deux objectifs ?
C'est vraiment l'exemple même d'injonction contradictoire. Et le baron de Coubertin, à la fois, n'échappait pas aux préjugés de son époque et en même temps créait quelque chose de parfaitement universel qui est devenu beaucoup plus important qu'il ne le pensait. La première édition des Jeux Olympiques, c'est 13 pays, 2 Nord-Américains, 11 Européens. Ce sont des Jeux masculins et blancs. Et aujourd'hui, les JO sont paritaires ou quasi paritaires et toutes les nations, ce sont des Jeux universels. Donc c'est tout à fait différent. Effectivement, il y avait une sorte d'hypocrisie ou d'inconscience de volonté chez Coubertin, qui ne voulait pas que les gens s'expriment, qui ne voulait pas mélanger sport et politique, mais quand on veut pacifier les relations internationales, c'est bien la politique. Et il faut rappeler qu'il y avait aussi un dessein caché chez le baron de Coubertin, c'était de redonner de l'énergie et le goût de l'effort à la jeunesse française pour prendre la revanche de la guerre perdue contre la Prusse en 1870, puisqu'on avait attribué la défaite française à une moins bonne préparation athlétique et physique que les Prussiens, et pour le moins, c'était clairement un objectif géopolitique.
Kevin Vessière, vous écrivez dans votre livre que l'Euro de football, depuis sa création en 1960, n'a eu de cesse de faire tomber les barrières et d'apaiser les tensions entre les nations européennes. Vous trouvez que le ballon rond a fait davantage pour la construction européenne que la politique ou la diplomatie ?
En tout cas, pour 1950, c'est sûr que le football a participé un petit peu à cette volonté des différents pays de pouvoir se retrouver au-delà de la guerre. Donc il y a eu différentes initiatives, qui soient diplomatiques ou économiques, notamment avec la CECA qui a été créée en 1952. Mais après, effectivement, avec le football, ce qui a été intéressant de noter, c'est qu'avec la création de l'UEFA, ça rassemblait des nations au-delà du rideau de fer, dans une Europe divisée entre les blocs de l'Ouest et de l'Est. Et c'est vrai que le football a permis, en tout cas, de repousser cette frontière-là. Après, c'est vrai que voilà, le football ne peut pas tout régler. Nous, on a vu notamment avec l'Euro 1960 où l'Espagne et l'URSS n'ont pas pu s'affronter pour des considérations politiques. Donc le sport est toujours politique, quel que soit le biais. Mais c'est sûr que, en tout cas, il a fait tomber cette première barrière-là et qu'après la chute du mur de Berlin en 1989, que les différentes nations européennes qui ont pu être indépendantes à la suite du bloc soviétique ont tout de suite voulu être présentes sur le terrain sportif, que ce soit par la création d'une équipe de football ou bien par la reconnaissance de leur comité national olympique, par le CIO, pour montrer leur drapeau, pour montrer qu'ils existaient aux yeux du monde lors des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques.
Vous citiez à l'instant le premier Euro de football en 1960. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé lors de cet Euro quand l'Espagne de Franco a refusé justement de jouer contre l'URSS ?
Eh bien, il s'agissait en fait d'un quart de finale. C'était le premier gros choc de cet Euro et l'UEFA était dès lors très satisfaite de ce choc-là, puisque pour elle, l'important, c'était que sa compétition soit une réussite, tant au niveau populaire que médiatique. Le problème, c'est que l'Espagne est alors dirigée par Franco, qui est le dictateur de l'Espagne de l'époque, et qu'ils vont jouer contre l'URSS. Et il faut dire que quand Franco a pris le pouvoir, il luttait contre l'armée républicaine espagnole, qui était alors soutenue par les soviétiques, et il gardera toujours une rancœur vis-à-vis de l'URSS. Et donc, voir l'Espagne affronter l'URSS, pour lui, c'était inconcevable. Donc, il va intimer l'ordre à l'équipe espagnole de ne pas jouer ce match. Et notamment, le joueur de l'époque, Alfredo Di Stéfano, qui va apprendre cette nouvelle et qui va demander pourquoi. Et on va lui dire que c'est un ordre de Franco, donc il n'y aura pas à discuter. L'UEFA va essayer de sauver la situation en essayant de proposer le match sur terrain neutre. Mais les soviétiques ne veulent pas parce qu'ils voulaient accueillir l'Espagne à Moscou. Et donc, bah, l'UEFA va être contraint d'exclure l'Espagne de sa compétition, et donc l'AFP tritrera qu'effectivement la guerre froide a touché ce premier Euro de football, même si ça va au-delà de ça puisqu'il y a des considérations politiques. Et donc, bah, l'URSS va pouvoir se qualifier et remporter ce premier Euro-là, et ce sera trois équipes d'Europe de l'Est qui vont compléter le podium avec l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
Carole Gomez, vous êtes d'accord, la guerre froide, c'est aussi disputée sur le terrain sportif?
Oui, bien sûr, et on parlait de l'Euro, mais on peut évidemment citer d'autres compétitions, grandes compétitions sportives internationales, telles que les Coupes du Monde masculines ou telles que les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et d'ailleurs, on se souvient avec Pascal Boniface, citer la première participation de l'URSS aux Jeux de 1952. Et puis, à partir de ce moment-là, on va vraiment voir dans les réflexions un certain nombre de stratégies pour justement montrer sur le terrain que son système est le meilleur. Et ça va passer par à la fois les performances sportives et les records qui vont tomber les uns après les autres, mais aussi avec les organisations de grandes compétitions sportives. On peut penser ici, par exemple, à l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Moscou, ou plus exactement, devrais-je dire, les Jeux Olympiques de Moscou, puisque les Jeux Paralympiques n'ont pas eu lieu à Moscou, ont lieu aux Pays-Bas, puisque Moscou avait considéré qu'il n'y avait pas de personnes handicapées sur son sol, et donc il ne voyait pas l'intérêt d'organiser ces jeux sur son sol, mais ça c'est un autre sujet. Et donc on voyait bien à travers ces jeux-là de Moscou et de Los Angeles, qui ont d'ailleurs été frappés par des très importants boycotts, qu'il s'agissait ici d'être au cœur de l'attention, au cœur de l'actualité internationale, et de mettre véritablement en valeur le système, soit capitaliste, soit communiste, pour justement montrer à quel point l'un était supérieur à l'autre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui continue aujourd'hui, je pense, à nous marquer profondément, puisque le premier réflexe que l'on a à la fin d'une Olympiade ou à la fin d'une compétition, c'est de regarder soit le classement des médailles, soit le podium, exactement ce que vient de faire Kevin Vessière. Et à ce titre, il est d'ailleurs très intéressant de voir aujourd'hui, on va dire, quelques reliquats de cette tension très forte entre les États-Unis et la Russie, ou plus largement les États-Unis contre d'autres grandes puissances. On peut penser ici à la Chine, avec notamment l'attention très forte que l'on accorde au classement des médailles. L'épisode de 2008 avec les Jeux de Pékin sont particulièrement intéressants, puisque pour la première fois, la Chine était arrivée première au classement des médailles, ce qui avait entraîné une petite tension diplomatique entre l'ambassade de Washington et l'ambassade de Pékin, puisque chacune des deux revendiquait la première place au classement, l'une revendiquant le nombre total de médailles, l'autre revendiquant le nombre de médailles d'or.
Toujours l'éternelle distinction au moment de faire les comptes. Pascal Boniface, aujourd'hui, Vladimir Poutine a gardé la même vision du sport que celle des dirigeants soviétiques.
De beaucoup de dirigeants du monde, effectivement. Disons que Poutine a voulu réhabiliter le sport en Russie, puisque la décennie 90 avait été catastrophique pour le sport en Russie, comme l'a été d'ailleurs catastrophique pour le pays en général. Et donc il y avait une déliquescence à la fois stratégique, économique de la Russie, et une déliquescence sportive. Poutine compte sur le sport à la fois pour des raisons de santé publique, mais aussi effectivement pour faire briller son pays. Il a tellement fait qu'ils ont été pris la main dans le sac en termes de dopage, et que ce n'est pas la Russie en tant que telle qui participe aux Jeux Olympiques, mais des athlètes russes. Et donc, ils sont quand même toujours, malgré cela, bien classés. Mais effectivement, il y a chez Poutine une volonté. Il a quand même obtenu les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, la Coupe du Monde de football en 2018. Et il y a chez lui la volonté pour Sotchi, c'était dire, alors que l'URSS avait été boycottée, eh bien, la Russie ne l'a pas été, malgré les tensions géopolitiques, de même que la Coupe du Monde n'a pas été boycottée. Et quels que soient les débats sur la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, on peut parier qu'aucun pays qualifié ne la boycottera. Je pense que l'ère des boycotts est passée, tant pour les Jeux Olympiques que pour la Coupe du Monde.
Vladimir Poutine s'était d'ailleurs déplacé en personne en juillet 2007 au Guatemala pour plaider devant le CIO la candidature de Sotchi. On l'écoute.
Soutenez, s'il vous plaît, le rêve olympique des millions de Russes qui attendent votre décision avec l'espoir.
La Russie s'est préparée sérieusement et de façon responsable aux Jeux Olympiques, avec un immense amour pour le sport.
Carole Gomez, Paris gagné, Poutine a obtenu ce qu'il voulait. Pourquoi s'est-il autant investi dans ce dossier à ce moment-là ?
Il y a plusieurs raisons. Alors certaines ont été données par Pascal Boniface, mais on peut aussi ajouter ce que je disais tout à l'heure, la Russie, l'URSS, n'a obtenu qu'une seule attribution, les Jeux de Moscou, dont on se souvient non pas pour les records, mais plutôt par le boycott extrêmement important qui a été subi. Ici, avec Sotchi, il s'agissait non seulement d'être au cœur de l'attention internationale pendant une double quinzaine, permettre de démontrer par l'organisation du sport qu'il y avait une vraie dimension culturelle, historique, économique à la Russie, et donc ça permettait vraiment de venir mettre en exergue tous les efforts qui avaient pu être faits depuis presque une décennie. Et on le voit, vraiment une montée en puissance à partir du début des années 2000, au moment où Vladimir Poutine arrive au pouvoir, et on voit une véritable structuration au sein des fédérations sportives nationales mais également internationales, où la voix russe est extrêmement forte et pèse aujourd'hui très fort dans l'enceinte du CIO évidemment, mais également au sein des fédérations internationales sportives, notamment avec un certain nombre de Russes à la tête de fédérations, mais également avec, et ça a été également dit, à travers les performances où il était ici question de véritablement, à l'occasion de l'accueil de ces Jeux Olympiques et Paralympiques à Sotchi, de mettre en avant la qualité de la formation russe, les performances russes, et de nourrir le récit russe du retour de la grande Russie sur la scène internationale. Et ici, on voit vraiment comment est-ce que sport et politique s'entremêlent et comment est-ce que cet objectif-là prend une dimension tout autre dès lors qu'on l'analyse à travers le prisme géopolitique. Il est intéressant de voir que les performances des athlètes russes n'ont pas été à la hauteur des attentes aux Jeux de Vancouver en 2010, et d'après les différentes informations que l'on a pu récolter, il y a eu un peu de grabuge dans les fédérations sportives mais également dans le Comité National Olympique qui considérait qu'il était intolérable pour la Russie d'avoir d'aussi mauvais résultats lors de son Olympiade et qu'il est donc nécessaire de mettre en avant, muscler un peu le jeu pour justement ne pas paraître comme étant une nation moyenne.
Mais c'est pour ça qu'on va aboutir à ce système généralisé de dopage d'État, qui va coûter cher à la Russie ensuite.
Alors, effectivement.
Le scandale va éclater.
Pour le coup, aujourd'hui, et ça c'est ce qui est démontré par un certain nombre de travaux, notamment de l'Agence mondiale antidopage, on sait qu'il y a eu un dopage qui a été institutionnalisé, on sait qu'il y a des liens très forts entre le laboratoire antidopage et le ministère des Sports. En revanche, aucun lien n'a été trouvé entre le Kremlin et cette affaire de dopage. Le CIO va un peu se défausser sur les fédérations internationales, à qui il va donner la charge de eux-mêmes vérifier qui est en charge de quoi, chose que le comité paralympique ne fera pas puisqu'il exclura tout simplement les athlètes des Jeux paralympiques, et c'est quelque chose qui va se reposer lors des Jeux de 2018, les Jeux d'hiver, et qui se repose encore aujourd'hui, même si entre-temps il y a eu une décision de l'Agence mondiale antidopage qui a été amoindrie par le tribunal arbitral du sport et qui en gros empêche la Russie de pouvoir accueillir des compétitions sportives internationales pendant 2 ans sur son territoire et qui empêche les sportifs et sportives de se présenter sous la bannière russe, avec l'hymne russe. Et donc c'est pour ça que l'on a vu au cours de ces Jeux Olympiques et Paralympiques le symbole ROC, Russian Olympic Committee.
Kevin Vessière, beaucoup d'oligarques russes ont investi dans des clubs de football européens. Ils le font par amour du ballon rond, par intérêt financier ou sous la pression du pouvoir russe ?
Dans un premier temps, ils le font plus par intérêt financier. Mais après, il y a toujours des liens qui sont faits entre le football et puis et les investissements russes dans le football et puis l'État russe. Surtout qu'il y a aussi Gazprom qui est une grande société russe qui a des liens très étroits avec l'UEFA puisqu'il est l'un des sponsors principaux. Après, c'est sûr que la Russie a à cœur d'être présent sur le terrain du football. Pour la Coupe du Monde, l'intérêt, c'était d'avoir une sélection russe forte. Et c'est vrai qu'elle n'a pas démérité parce que je crois qu'elle s'est arrêtée en quart de finale. Par contre, pour ce qui est des investissements russes dans le football, c'est vrai qu'au niveau des clubs, même si ça reste des investissements privés, c'est très lié à l'État russe. Et que effectivement, Gazprom a un pouvoir important vis-à-vis de l'UEFA de par le fait de sa puissance financière et le fait que ce soit un sponsor principal de l'UEFA.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à parler sport et géopolitique.
Géopolitique. Chantal Loureau.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans la seconde partie de Géopolitique. Alors que que les Jeux de Tokyo se sont achevés ce dimanche. Que reste-t-il de l'idéal olympique de Pierre de Coubertin? Pourquoi le sport est-il devenu un enjeu majeur de géopolitique? Comment les États s'en servent-ils pour exercer leur soft power? On continue d'en débattre avec les chercheurs Carole Gomez et Pascal Boniface et le créateur du football club Géopolitics, Kevin Vessière. Pascal Boniface, comment les instances sportives internationales gèrent-elles le côté politique des compétitions sportives?
Elle le gère à plusieurs niveaux. D'une part, l'attribution à telle ville ou à tel pays des compétitions sportives mondialisées qui sont la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques donne lieu à d'âpres luttes parce que vous avez cité Poutine qui s'était déplacé pour obtenir les Jeux à Sochi, mais on peut parler de Nelson Mandela qui vient lui-même. L'Afrique du Sud aurait dû avoir la Coupe du Monde 2006. Elle a été attribuée à l'Allemagne suite à un vote un peu suspect du délégué océanique qui avait des liens, disons, assez forts avec Adidas. Et donc, pour éviter une telle mésaventure, Nelson Mandela s'est déplacé. Pour les Jeux Olympiques de 2016, tout simplement, c'était à la fois Barack Obama et Lula qui sont venus plaider, l'un pour Chicago, l'autre pour Rio, et c'est Lula qui l'a obtenu. Donc le fait d'attribuer la ville, c'est quand même un choix géopolitique. Puis ensuite, effectivement, il faut gérer les résultats, les compétitions et les rivalités entre nations. Et le classement, effectivement, on vous en parlait tout à l'heure, il y a une façon de présenter les médailles qui sont plus ou moins avantageuses. Et donc, en fait, les fédérations sont tout à fait conscientes des influences géopolitiques et de l'impact géopolitique de leur action.
Si on revient un peu en arrière, pourquoi le CIO offre-t-il à Hitler les Jeux de Berlin en 1936, alors qu'en 1933, les Juifs ont été exclus de toutes les organisations sportives et que les lois antisémites de Nuremberg sont promulguées en 1935?
Parce qu'on attribue les Jeux à l'Allemagne en 1931. Et pourquoi on les attribue à l'Allemagne en 1931? Ça illustre tout à fait ce que l'on vient de dire, c'est que l'Allemagne avait été exclue des Jeux en 1920 et 1924 parce que notamment la France ne voulait pas que l'Allemagne puisse briller sur le champ sportif et quelque part symboliquement obtenir sur le terrain sportif la victoire qu'elle n'avait pas obtenue sur le plan militaire. En 1931, l'Allemagne est réadmise pour la première fois aux Jeux de 1928. Et en 1931, on se dit que décidément, l'Allemagne a bien changé, qu'on est dans la réconciliation. Et donc, on attribue les Jeux à Berlin en 1936 dans l'optique de la diplomatie des lacs et de la réintégration de l'Allemagne dans la famille universelle et donc olympique. Sauf que, entre-temps, Hitler prend le pouvoir et qu'il va se servir effectivement des Jeux comme d'un levier de reconnaissance de sa puissance et comme une ode à la suprématie raciste de la race aryenne par rapport aux autres.
Mais heureusement, il y a eu Jesse Owens, athlète afro-américain, petit-fils d'esclaves de l'Alabama, dont les performances sont vécues comme un camouflet par Hitler.
Totalement, puisque finalement la suprématie de la race aryenne, lorsque Jesse Owens remporte 4 médailles, elle est mise effectivement un petit peu en arrière. Mais ce qui a encore plus choqué Hitler, c'est l'amitié entre Jesse Owens et le sauteur en longueur allemand, Lutz Long, un grand blond aryen qui correspond tout à fait aux normes hitlériennes, sauf qu'il s'est lié d'amitié avec Jesse Owens. C'est même lui qui lui a donné les indications de comment prendre ses marques pour le saut en longueur pour qu'il puisse obtenir sa médaille. Et Lutz Long n'a été que médaille d'argent. Il y a des photos, ils sont côte à côte, presque enlacés, ce qui choque parfaitement Hitler. D'ailleurs, Lutz Long ne va pas survivre, il mourra en 43, il sera banni en Allemagne. Rappelons quand même que Jesse Owens n'est pas reçu à la Maison Blanche par Roosevelt et qu'il subit les discriminations raciales dans son pays. Et donc, à l'époque, les États-Unis, on sent bien sûr comparé avec la déferlante nazie, mais il y a beaucoup de discrimination contre les Noirs aux États-Unis et Jesse Owens sera victime de discrimination à son retour.
Et d'ailleurs, il dira, allez-y.
Oui, et ben il dira que la plus belle de ses médailles, c'est l'amitié qu'il avait eu avec Lutz Long et avec ce sauteur en longueur allemande qui effectivement est sa plus belle récompense.
Autre moment fort de l'histoire des Jeux, en 1968 aux Jeux de Mexico, deux athlètes afro-américains, là encore, Tommy Smith et John Carlos, médaillés d'or et de bronze du 200 mètres, baissent la tête, lèvent un poing ganté de noir sur le podium pendant l'hymne américain, un acte de contestation politique pour protester contre la discrimination dont sont victimes les Noirs aux États-Unis. L'image est entrée dans la légende, mais les deux hommes sont exclus des JO et de l'équipe américaine. Leur carrière est brisée. jusqu'à leur réhabilitation tardive. Barack Obama les reçoit à la Maison-Blanche en 2016. Écoutez Tommy Smith, à 75 ans, il revient sur ce moment qui a marqué l'histoire des JO.
J'étais un athlète. Mais qu'est-ce que j'étais d'autre ? Socialement, dans mon pays, j'étais relégué au niveau de moins que rien, une sous-espèce. On ne parle plus de questions sociales, là. On parle de questions raciales. Ce qui se passait, c'était les droits de l'homme, les droits civils des hommes. Or, les athlètes sont avant tout des hommes. On méritait le droit d'avoir des opinions, de donner notre opinion. Car les gens voulaient entendre ce que nous, les athlètes, nous avions à dire. On nous demandait ce qu'on ressentait. On n'avait pas le temps de parler. Alors, on devait montrer. Et on allait voir. Le podium du 200 mètres, c'est le choc des Jeux. Ai-je eu tort de faire ce que j'ai fait pour défendre ma cause ? Ou ai-je eu tort de le faire là où je l'ai fait ?
Pascal Boniface, quelle est aujourd'hui précisément la marge de manœuvre des sportifs qui participent aux Jeux Olympiques s'ils veulent s'exprimer en tant que citoyens ?
Alors, ils peuvent faire toutes les déclarations qu'ils veulent avant et après les Jeux ou pendant les Jeux en dehors du village olympique ou en dehors des compétitions. On accepte, par exemple, qu'ils fassent des signes comme mettre un genou à terre pour protester contre le racisme. Là où le CIO reste intraitable, c'est sur le podium. Sur le podium ou pendant le défilé, effectivement, d'ouverture, parce qu'il y a un peu la crainte qu'il y ait, autant celle de Smith et Carlos était, je dirais, finalement, largement acceptable, même si elles n'ont pas été aux États-Unis. En ce moment, ils sont rentrés dans l'histoire. On se rappelle de ceux qui ont levé le poing plus que de ceux qui ont gagné les médailles d'or et de bronze à l'époque. Mais le CIO a un peu peur qu'il y ait une instrumentalisation par certaines puissances, par exemple les Ukrainiens contre les Russes ou entre Chinois et Japonais, etc. Et donc ça, ce n'est pas permis. Il y a quand même un assouplissement. Et le CIO a reconnu que le fait de dire qu'on ne pouvait pas mélanger sport et politique était quand même d'une hypocrisie sans nom, puisque lui-même fait de la politique en permanence. Et donc, il y a un assouplissement. On voit très bien que les athlètes peuvent s'exprimer sur les Ouïghours, sur le racisme, sur tout ceci. Parce que tout simplement aussi, les athlètes sont désormais considérés comme des citoyens à part entière. Et l'image un peu de mineur, notamment dans certains pays comme en France, où le monde intellectuel et le monde politique regardent un peu de haut le monde sportif et considèrent que les sportifs n'ont pas à s'exprimer sur des sujets majeurs, cette idée reçue est désormais battue en brèche.
Alors si vous le voulez bien, je voudrais maintenant qu'on parle de la rivalité entre le Qatar et l'Arabie Saoudite en matière de soft power et de stratégie sportive.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Alors, le Dakar doit-il courir dans un tel climat ? Pour Hubert Auriol, triple vainqueur de l'épreuve, il ne faut pas mélanger sport et politique.
Il ne faut pas vouloir demander à des gens qui participent à une compétition sportive, d'être les porte-parole des problèmes des droits de l'homme dans ces pays-là. Je veux dire, c'est pas notre rôle.
On vient d'entendre l'annonce de l'attribution au Qatar de la Coupe du Monde de football 2022, suivie de la réaction en 2020 d'Hubert Auriol, triple vainqueur du Paris-Dakar, quand on l'interroge sur l'organisation pour 5 ans du rallye en Arabie Saoudite. Ce n'est pas le rôle des sportifs, dit-il, d'être les porte-parole des droits de l'homme dans ces pays-là. Carole Gomez, vous êtes d'accord ?
Disons que c'est une question compliquée, mais oui, effectivement, on peut être en accord avec cette déclaration-là, puisque leur métier, et c'est quelque chose qui s'est aussi vu lors des qualifications pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde au Qatar, où on avait vu un certain nombre d'athlètes porter des messages sur leurs t-shirts, certains revendiquant cette liberté d'expression, d'autres au contraire, considérant que ça n'est pas forcément de leur devoir de prendre position sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas spécialistes d'une part, d'autre part, ce ne sont pas leurs métiers. Et enfin, certains athlètes considèrent que ça les égare un peu de leur objectif et ça les détourne et ils sont ici les cibles de ces éléments. En revanche, le sport est intrinsèquement lié avec la politique et donc forcément, ces questions-là vont être posées, vont se poser. Et en tant que citoyens, ils vont être aussi interrogés sur ces sujets. Vous parlez du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui est effectivement une opposition extrêmement forte depuis maintenant 4-5 ans. L'Arabie Saoudite était relativement absente de la scène sportive depuis jusqu'aux les années 2014-2015. Et puis, on a véritablement eu un espèce d'emballement de cette royauté pour le sport à travers l'accueil de grands événements sportifs. Vous citez ici le Dakar, mais on peut aussi citer le fait qu'à la fin de cette saison de Formule 1, le royaume d'Arabie Saoudite va aussi accueillir un circuit qui est, on le sait, hautement regardé et hautement stratégique sur la scène de la géopolitique du sport, mais on pourrait aussi citer des tournois de tennis, des tournois de golf, des tournois de football, avec l'accueil des finales de Supercoupe d'Italie et d'Espagne sur son territoire. Ce qui pousse aussi la question de savoir quels sont les objectifs de ces puissances. Et là aussi, à mon sens, il ne faudrait pas considérer que les objectifs de ces, du Qatar, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite ou même de tout autre pays sont identiques. Chacun a ses propres objectifs qu'il va mettre en œuvre avec les moyens dont il dispose. Et c'est à mon sens ça qui est intéressant, c'est de ne pas parler d'une diplomatie sportive, mais au contraire de toute une panoplie de diplomaties sportives qui vont venir jouer avec les atouts des différents pays pour arriver à obtenir et surtout à atteindre des objectifs qui sont très précis et liés à la politique intérieure et extérieure du pays.
Kevin Vessière, en s'offrant le Dakar, en organisant à prix d'or des événements sportifs, qu'est-ce que recherche le prince héritier Mohamed Ben Salman, MBS comme on le surnomme, à redorer son image ?
Je pense qu'il y a trois considérations qui font que MBS et le régime saoudien investissent de plus en plus dans le sport. D'abord, comme ça a été évoqué dans l'extrait, il y a l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2010 qui a entraîné pas mal de jalousie dans la région, parce que le Qatar, ça reste quand même un petit pays à l'échelle du Golfe Persique, et donc voir le Qatar avoir l'une des plus grandes compétitions sportives organisées sur son territoire, ça a pas mal frustré l'Arabie Saoudite, surtout quand on sait que l'Arabie Saoudite et le Qatar, durant les années 2010, ont des relations houleuses qui vont notamment entraîner un blocus de la part de l'Arabie Saoudite et de ses alliés vis-à-vis du Qatar en 2017. Après, il y a cet investissement au niveau du sport pour l'Arabie Saoudite, pour redorer l'image de l'Arabie Saoudite, que ce soit à cause de la guerre au Yémen qui a commencé en 2015, ou de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, qui a considérablement terni l'image de l'Arabie Saoudite. Et puis il y a aussi un troisième point, c'est celui aussi de moderniser l'image de l'Arabie Saoudite, qui est encore associée à un régime monarchique très conservateur. Et donc là, avec ces investissements autour du sport, il y a l'idée aussi de remplir les objectifs du plan Vision 2030 lancé par MBS, à savoir moderniser le territoire, que ce soit par d'investissements économiques, d'investissements au niveau des industries du futur, notamment avec la ville du futur qu'il souhaite organiser à Neom en Arabie Saoudite. Donc le sport participe à cette stratégie pour apaiser l'image de l'Arabie Saoudite, pour montrer que c'est un territoire moderne qui peut accueillir des compétitions. Et on a pu voir que ça a été notamment le cas, puisqu'il y a eu une compétition de golf féminine qui a été organisée sur le territoire de l'Arabie Saoudite, pour montrer que l'Arabie Saoudite était ouverte sur la question de la pratique du sport pour les femmes, alors que le régime saoudien, pour l'instant, est encore loin de ces considérations-là sur le papier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Arabie saoudite va continuer d'investir dans ce domaine-là pour toutes ces raisons-là, mais surtout aussi pour rattraper son retard par rapport à son voisin, le Qatar, qui a enclenché cette diplomatie par le sport depuis les années 90. Et donc, pour l'Arabie saoudite, qui est pour l'instant une nation peu importante au niveau des Olympiades, et qui a certes avec son équipe de football, qui a été plusieurs fois championne d'Asie, mais qui a à cœur de devenir le grand pays d'Asie du football, et aussi de pouvoir être placé sur la carte du football en investissant dans des clubs. Pour le Qatar, ça a été le cas avec le PSG. Là, pour le cas de l'Arabie Saoudite, ils essayent d'acheter des clubs de première ligue. Ils ont essayé Manchester United, ils ont essayé Newcastle, ça n'a pas fonctionné encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va voir l'Arabie Saoudite investir dans les années à venir dans le football.
Pascal Boniface, l'aspect arme à double tranchant, le Qatar en a fait l'expérience. La presse a beaucoup parlé des conditions de vie des travailleurs étrangers exploités sur les chantiers des futurs stades de football. Selon le Guardian, 6500 travailleurs ont perdu la vie sur ces chantiers. Est-ce que l'image du Qatar en Occident a pâti de ces révélations ?
Alors, c'est certain que quand vous attirez la lumière, on regarde tout et on regarde pas que les aspects positifs. Et le Qatar, à mon avis, n'avait pas anticipé qu'il puisse y avoir des campagnes, lors d'une part parfois alimentées par ses rivaux géopolitiques, parfois alimentées par, plus sincèrement, par des ONG. Et du coup, ils n'ont pas eu d'autre choix que de modifier ces conditions, de créer un salaire minimum, de supprimer le système de kafala qui faisait que lorsqu'un immigré arrivait au Qatar, on lui confisquait son passeport et qu'il ne pouvait plus repartir librement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les travailleurs immigrés ont une, sans que leur condition soit totalement satisfaisante, elle est moins mauvaise que dans les pays, d'autres pays de la région, ou même, on peut citer le sort des immigrés à Hong Kong et à Singapour, qui sont aussi peu enviables. Ce qu'il faut voir, c'est que des grandes ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International n'ont jamais demandé l'annulation de la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont demandé à ce qu'on serve de la Coupe du Monde comme d'un levier pour augmenter, pour améliorer la situation, ce qu'ils ont en grande partie obtenu, puisqu'il y a eu un dialogue qui s'est instauré entre ces ONG et le Qatar, qui s'est aperçu que s'il ne changeait pas, eh bien, il y aurait finalement un effet contre-productif d'avoir obtenu la Coupe du Monde. Et pour revenir à votre question initiale sur est-ce que les sportifs sont des ambassadeurs des droits de l'homme, il faut aussi voir quand même l'hypocrisie de certains responsables qui demandent le boycott des compétitions sportives, mais qui ne bandent pas le boycott des échanges culturels ou échanges économiques. Et donc, c'est toujours sur le sport que devrait peser cela. Il est un peu trop facile pour certains responsables politiques ou des intellectuels, et très souvent d'ailleurs plutôt des pseudo-intellectuels que de vrais intellectuels, de demander le boycottage des compétitions sportives tout en pensant que les relations commerciales, économiques et autres doivent continuer normalement. Si un pays est réellement détestable, eh bien, il faut couper tout contact avec lui, et pas seulement dans le domaine sportif.
Carole Gomez, un mot sur ce qu'on appelle la diplomatie des stades que mène la Chine sur le continent africain. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Rwanda, Kenya, Gabon, Mauritanie, et encore, je n'énumère pas tous les pays concernés. La Chine rénove ou construit des infrastructures sportives. Elle anticipe les calendriers de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Elle cible en priorité les pays francophones. Dans quel but, dans quel dessein ?
Ben, cela participe. Alors, il faut avoir en tête que la diplomatie des stades remonte à déjà plusieurs décennies. C'est quelque chose qu'on étudie de façon récente, mais qui en réalité remonte
aux années 50,
ouais, années 50-60. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une volonté de coopération avec les autorités nationales et la Chine, et qui aujourd'hui prennent une nouvelle tournure avec les nouvelles routes de la soie, où, par le biais de ces échanges, par le biais de ces constructions, par le biais d'une collaboration étroite qui est faite avec les institutions sportives, évidemment, mais aussi les institutions politiques, il y a une vraie volonté pour la Chine de venir s'ancrer sur le territoire africain. Et à ce titre, on parle souvent des nouvelles routes de la soie qui passent par l'Asie centrale, par l'Europe, mais on a toujours tendance à oublier qu'elles passent aussi par le continent africain, avec un certain nombre de ports, de villes, de capitales, avec des réseaux de transport, des réseaux énergétiques et évidemment des constructions qui passent à ce niveau-là. Et vous le citiez, le cas du Gabon, qui a vu, si ma mémoire est bonne, trois de ses stades entièrement construits et financés par la Chine à l'occasion d'une compétition continentale. Et donc, il montre aussi à quel point cette présence chinoise est extrêmement importante. Il sera très intéressant de suivre quelles seront les prochaines échéances et quelles seront les prochaines étapes de cette diplomatie des stades, et surtout comment est-ce que cela va se concrétiser. Et en parallèle de cette diplomatie des stades, on retrouve aussi un certain nombre d'échanges, de collaborations qui sont faites entre les fédérations, avec notamment l'envoi d'entraîneurs chinois en Afrique, dans un certain nombre de pays africains francophones effectivement, mais pas uniquement, mais également l'organisation de stages où des délégations entières sont sélectionnées dans les pays, peuvent venir en Chine s'entraîner avec les meilleurs entraîneurs chinois et même potentiellement les meilleurs entraîneurs du monde pour justement essayer de venir densifier, renforcer cette coopération et cette amitié entre les différents pays. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui relevait plutôt de l'exception il y a de ça quelques années encore et qui aujourd'hui a tendance à devenir de plus en plus fréquente. Quand on fait une veille sur le sujet, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens-là, chose qui n'est à mon sens pas parfaitement encore saisie par un certain nombre de personnes du monde du sport. Et juste, si vous me permettez de rebondir sur ce qui a été dit auparavant, effectivement que le sport et la géopolitique sont intrinsèquement liés, mais à mon sens, ça n'est pas encore suffisamment compris par les décideurs et par les fédérations sportives internationales.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Carole Gomez, directrice de recherche en géopolitique du sport à l'IRIS. Kevin Vessière, créateur du site et du compte Twitter Football Club Geopolitics et auteur du livre du même nom, Football Club Geopolitics, 22 histoires insolites pour comprendre le monde, aux éditions Max Milo. Et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, auteur de Géopolitique du sport, édition mise à jour publié chez Echo. Merci à Cécile Lavolo qui m'a aidé à préparer cette émission et à Sophie Janin qui l'a réalisée. Merci à Lina pour les sons d'archives. Bonne semaine à tous, portez-vous bien.